Conversation avec Silver Lettringer, troisième partie.
Fonctionnait d'une telle manière avec les gens de l'art, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas, communication, parce que toi, tu étais
arrivé. Il n'y avait pas forcément dialogue.
Et l'artiste parlait en tant qu'artiste, toi, tu l'écoutais en tant que théoricien. Par contre, qu'est-ce qui arrive dans tes conversations avec d'autres théoriciens comme Virilio, Baudrillard, avec des gens qui ce ne sont pas des artistes, mais ils font un peu comme toi, ils sont à l'écoute, ils regardent le monde présent. Qu'est-ce qui arrive dans une.
Encore une fois, c'est très différent. C'est très, très différent. Alors, en gros, ça me rappelle un peu ce que disait Lévi-Strauss dans les structures élémentaires de la parenté. Il disait, en Europe, quand on veut comprendre quelque chose, on pose des questions. Et ça, c'est l'histoire du dialogue. On pose des questions, on voit un artisan, on dit, tiens, comment vous faites ceci, comment vous faites cela, comment vous forgez cela. Et quand il nous a expliqué, on sait. Il dit, en Afrique, les gens s'assiedent sur leur talon, ils regardent l'artisan travailler. Au bout de 2 heures, ils savent comment travailler. Donc, c'est un petit peu faire ça sur le niveau de la conversation. En fait, à la limite, ça serait de ne pas converser. Ça serait de se mettre à l'écoute de quelque chose en sachant très bien que ce qui est important, ce n'est pas d'avoir raison, ce n'est pas d'échanger, mais c'est de créer un matériau qui va pouvoir être théorisé. C'est ça, parce que tout peut être théorisé. Par exemple, vis-à-vis des psychiatres, l'idée, c'était de dramatiser ce qu'ils font, qu'ils l'expliquent, qu'ils deviennent de plus en plus détaillés, etc. Ce qui fait que tu constitues quelque chose, encore une fois, qui est un matériau, ce n'est pas une conversation.
Mais alors, là, vous le constituez à deux. Quand je lis tes dialogues avec Virilio, avec Baudrillard, oui. Là, il y a vraiment, on sent bien que tu es vraiment inséré avec eux. Enfin, tu développes leur pensée avec eux.
L'idée était différente, là. C'était de faire des livres. C'est ça. Quand on fait un livre, et l'idée, c'est que la théorie française avait été était très à la mode parce qu'elle était difficile. Je me suis dit, bon, mais tout de même, la théorie, c'est tout de même des idées. Oui. Et il faudrait... Des idées, ça peut se comprendre sans même être un spécialiste. Parce que si on laisse ça à des gens qui veulent devenir des spécialistes, à ce moment-là, ils vont le fétichiser. Donc comment faire en sorte, c'est utiliser un moyen journalistique, d'avoir des gens qui s'expriment. Parce que souvent, les théoriciens, une fois qu'ils expliquent, c'est beaucoup plus compréhensible. Alors, c'est peut-être un peu délayé, ou c'est peut-être etc., mais ils n'ont pas besoin de rendre les choses forcément moins précises en les expliquant. Alors, ça coïncidait tout de même cette transformation de la théorie en France, et qu'à partir du début des années 80, les Français se sont laissés infecter par la culture américaine, et la théorie française est devenue médiatisée, mais pas médiatisée de la manière dont je le fais. C'est-à-dire qu'il a fallu que les gens réduisent, simplifient, etc. Moi, j'ai voulu parler avec des gens de leur travail, c'est-à-dire, et qu'ils utilisent un peu les concepts, mais je demandais constamment des clarifications, on discutait, etc. Donc, c'était l'idée, comment faire en sorte que cette théorie puisse être plus abordable, sans pour autant la simplifier. Au contraire, la complexifier, parce qu'on pouvait montrer les différentes facettes, de poser des questions que les gens ne se poseraient peut-être pas, etc. Donc ça aussi, c'était une manière différente. C'était pas du tout que je cherchais à coincer Baudrillard ou les autres.
Ça, c'est clair dans tes conversations. C'est clair que tu n'essaies pas de les coincer. Au contraire, tu essaies de comprendre.
Oui, j'essaie pas de me faire mousser non plus à leur avantage.
Absolument.
Je cherche à leur donner l'occasion d'expliquer de la manière la plus précise possible, mais aussi peut-être de la plus accessible possible, de manière à ce que les idées ne viennent pas des objets esthétiques, qui deviennent des objets qui rentrent dans la vie des gens. C'est aussi simple que ça. Donc ça faisait partie du fait que de ce fait que l'interview n'est jamais la même chose. Ce que j'aime en fait dans une interview, c'est pas forcément ce que j'ai fait avec Baudrillard ou Virilio, sauf à par moment. J'aime bien que ce soit une espèce de petit drame mental, comme Artaud les appelait. Ils appelaient, c'est la première pièce de théâtre qui n'était pas une pièce de théâtre, ils appelaient ça un drame mental. C'est ça que j'aime. C'est qu'entre le moment où on commence à parler et la fin, il s'est passé quelque chose, que à la fois toi et la personne à qui tu parles, on a découvert quelque chose qu'on ne connaissait pas avant. C'est ça le but de l'interview. C'est pourquoi l'interview doit être une exploration, une expérimentation, on ne sait pas très bien où on va arriver.
Il y a quelque chose qui surgit de l'entre-deux.
C'est ça. À un certain moment, on dit, ah mais tiens, c'est vrai, je n'avais pas vu ça. Les choses connectent, il y a un déclic, et alors c'est ça. Et ça ne serait pas arrivé si on n'avait pas pris ce format qui est celui de l'interview.
Si toi, t'en es très conscient, est-ce que Virilio et Baudrillard, j'imagine, comme ils ont fait plusieurs conversations avec toi, oui, se sont aperçus également de cette...
Mais parfois ça arrive, parfois ça n'arrive pas. Parce que ce n'est pas des choses qu'on peut programmer. C'est que la conversation, ça veut dire c'est un peu à bâton rompu et des choses qui interviennent, etc. Mais il y a des moments où les choses cliquent. Des choses qu'on n'a pas mis ensemble se mettent ensemble, et tiens, on a ce mouvement de recul, soudain on comprend quelque chose. Mais il fallait un peu, comme c'est la pointe d'un iceberg, il fallait tout l'iceberg pour que ça sorte. Mais pour moi, c'est ça l'élément essentiel. Et quand il m'arrive d'éditer des interviews, parce que ce n'est pas toujours le cas, il y a des fois où c'est tel quel, mais quand j'ai des interviews, tout se fait en fonction de ça. Ça devient une dramatisation de cette expérience de découverte de quelque chose. C'est là, c'est tout ce qui... Alors ça se prépare, c'est comme symphoniquement, il faut laisser les choses, les amorcer, les laisser venir, que ça reprenne, que ça prenne... Et soudain, paf, on comprend quelque chose. Et donc ça demande une certaine dramatisation, ça devient un objet artistique.
Oui, sur ce point-là, oui. Absolument.
Et c'est pourquoi certains ont voulu le mettre en scène ou l'ont mis en scène, parce qu'il y a un drame. Et ça, c'est ça qui m'intéresse.
Oui, c'est dialogique, hein, tout ce qui est drame, enfin...
Il y a un dialogue et quelque chose se passe, et en fait, on est accroché, il y a une espèce de venir, il y a un déroulement, il y a une surprise, etc. Et donc, ça peut être mis en scène, et c'est ça, moi, souvent, c'est les gens de théâtre m'ont dit que, ah tiens, ça, on pourrait faire quelque chose avec ça.
Mais quand il y a une mise en scène, il y a une conscience de ce qui surgit.
Oui, mais il y a le hasard aussi. Par exemple, quand j'ai fait cette conversation avec le psychiatre d'Artaud, on commence la conversation, puis à un moment, il me sort son magnétophone et me dit, mais tiens, j'ai enregistré ma conversation avec le sœur d'Artaud. Est-ce que vous voulez écouter ça? Alors moi, j'étais là, j'ai donc enregistré ce qu'il avait enregistré. Et dans la conversation qu'il a eue avec la sœur d'Artaud, il faisait le bon diable, il lui posait des questions, comme moi je lui pose, pour qu'elle s'en faire.
Ouais.
Mais lui, il s'enferrait avec moi, mais elle s'enferrait avec lui. Donc c'était déjà une structure dramatique en poupée chinoise. Ils étaient emboîtés les uns les autres, donc c'est devenu une pièce de théâtre. Et ça a été joué comme une pièce de théâtre, parce qu'il y avait déjà deux niveaux, les choses... Donc on ne sait jamais ce qui va arriver. Et c'est ça, et il y a aussi bien sûr cette chose...
Mais avec la pièce de théâtre, il y a quelque chose de plus qui s'ajoute à la première conversation qui a été...
Oui.
C'est bien pas sûr. Juste faire ressortir ce qui est arrivé dans la première conversation, mais aussi, c'est également essayer de provoquer, hein, ou du moins essayer de poursuivre cette dynamique.
Oui, c'est aussi que c'est ça le présent. Le présent, c'est ce qu'on enregistre. Comme on fait là. Oui. Et donc, moi, il y avait toujours. Moi, ce qui m'intéressait à ça, il y avait deux raisons. La première, c'est que je ne parlais pas, par exemple, aux États-Unis, je ne parlais pas encore assez bien anglais pour faire des discours, etc. Donc, je demandais aux autres, avec leur langage anglais, de parler pour moi. Et ça a été le processus par lequel je produisais des documents en anglais. C'était ça l'origine. Mais je savais très bien ce que j'ai fait du journalisme. J'ai travaillé pendant longtemps avec le microphone. Et je me suis aperçu qu'il y a des choses qui arrivent. Parce qu'on capture le présent au moment où il est en train de se faire.
Et ça, c'est le principe de la théorie même.
Oui, c'est exactement.
Capturer le présent.
C'est ce que Nietzsche appelle aussi l'intempestif, ce à quoi on ne s'attend pas. Quand on met le magnétophone, on ne sait pas ce qui va arriver. Et au lieu, ça peut arriver, ça peut ne pas arriver, mais de savoir que dès qu'on met en magnétophone, on met en marche un processus par lequel le présent va pouvoir se démasquer. Et en même temps, c'est quelque chose de très poignant de penser que cette conversation que nous avons maintenant, c'est comme un morceau d'histoire brute qu'on est en train de produire et qui ne se répétera jamais. Et que ce qu'on a dit à ce moment-là, on ne s'en rappellera plus. Et pourtant, ça avait existé quelque part. Et ça, moi, ça me bouleverse. C'est pour ça que j'ai accumulé dans ma vie, parce que j'avais tellement le sentiment, toi, que chaque moment que j'enregistrais était un moment qui était sauvé à la mort, toi, et à la perte de mémoire et tout ça. Et c'était comme si, et c'est vrai que c'est incroyable, 20 ans plus tard, moi j'ai des choses que j'ai fait il y a 30 ans, 35 ans.
Dans une entrevue, tu as déjà dit que c'était lié également à quelque chose qui venait peut-être de plus loin que le fait que tu ne parlais pas anglais. C'était peut-être lié au fait, bon, ton origine juive, où on a finalement on prenait la parole pour vous. Donc ça venait peut-être aussi de là.
C'est difficile de répondre à ça. Mais ça vient un petit peu du fait que j'avais pas tellement envie de vivre non plus. Donc j'ai demandé aux machines de le faire pour moi. Et puis donc l'interview, c'était aussi un certain moyen de produire quelque chose, mais où soi-même on n'a pas vraiment d'importance. Parce que quand on fait venir le présent, c'est pas son présent à soi. C'est un peu donner un peu au monde l'occasion de s'enregistrer. C'est aussi quand on lit une interview, on ne fait pas attention aux questions de l'intervieweur. On regarde toujours ce que l'interviewé a dit. En général, ce que dit l'interviewé, on le réédite de manière que c'est plus lisible, etc. Donc de cette manière, c'était aussi, il y a beaucoup de niveaux. D'une manière, c'était faire un travail universitaire, mais qui n'était pas reconnu par l'université, parce qu'une interview n'a pas de valeur universitaire, donc on ne m'en donnait pas crédit. Mais c'était tout de même de publier les choses. Donc je pouvais mettre ça sur mon palmarès, sur mon vita. C'était un travail que j'ai fait.
Mais qui se rapprochait de l'art.
Donc. Oui, mais ce n'était pas un travail accrédité dans l'université. Donc souvent, pendant longtemps, je mettais sur mon curriculum vitae des choses qui n'étaient pas acceptables. Donc c'était mon petit plaisir. Le deuxième, c'est qu'effectivement, quand on publie une interview, on peut être content de l'interview, mais personne ne fait attention à qui a fait l'interview. Donc c'était une certaine manière de se suicider, de se faire disparaître. Ça vient peut-être que je n'ai pas tellement envie de vivre, mais je ne pouvais pas m'empêcher de faire des choses. Mais j'ai pas envie.
C'est très, très paradoxal en même temps. Une espèce de volonté de disparaître, mais aussi une volonté d'apparaître à travers des choses qu'on fait.
Aussi, c'est que quand on disparaît, on fait apparaître des choses. Parce qu'en général, les gens se mettent toujours au premier plan. Quand on cesse d'être au premier plan, on donne à un tas de choses la possibilité d'apparaître qu'on ne ferait pas si on ne bloquait pas la vue. Et ça, l'interview aussi. C'est que finalement, on fait un acte dans lequel on disparaît, mais on a permis à des idées d'arriver, à des documents de se former, etc. C'est ça qui est important, c'est pas le fait que c'est moi. Mais, donc c'était ça. Donc c'était pas complètement... C'est une manière aussi de faire de la disparition quelque chose. Parce qu'on peut pas... On a bien envie de disparaître sans laisser de traces. Pour moi, c'était l'expérience de New York. C'est que finalement, je peux disparaître sans laisser de traces. Cette ivresse de penser qu'on peut vous tuer, on peut n'importe quoi, on ne saura jamais ce que vous êtes devenu. C'est tellement...
Oui, l'anonymat dans la grande ville.
C'est ça. Et bon, c'est à la fois des gens, ça peut être paniquant, etc. Mais c'était un tel sentiment de puissance de savoir qu'on pouvait être rien, qu'on pouvait disparaître.
Tu laisses la parole aux autres, ils ont à plusieurs origines.
Oui, tout à fait. Ça. C'est que les choses ont toujours ont une fonction. Ce n'est pas qu'ils ont un sens, c'est qu'ils ont une fonction. Ça avait une fonction par l'université, ça avait une fonction par rapport à l'art, ça avait une fonction par rapport à la théorie. Les fonctions se produisent quand on a besoin d'elles. Mais on a à sa disposition quoi ? Un magnétophone. Ouais. C'est rien. C'est une petite machine, comme dit Deleuze Guattari. Jamais pensé, quand je faisais ça, que j'introduisais la petite machine, un petit peu comme l'homo magnétophone. Tu connais l'histoire de l'homo magnétophone, c'est une histoire célèbre. Jean-Jacques Abrahams, c'était un patient belge. Et il était en analyse. Et un jour, il est venu avec son magnétophone en analyse, et le docteur a dit pas du tout, enregistrez pas, vous n'avez pas le droit d'enregistrer ce qui se passe, etc. Et il a voulu prendre le magnétophone, et ils se sont poursuivis autour de la table, et à travers l'appartement. Et il a continué à enregistrer pendant que ça se passait. Alors il dit, je vais appeler la police, arrêtez ça, etc. Et ça a été publié dans les temps modernes par Sartre. C'était le magnétophone. Et c'était cette idée que un tout petit appareil comme ça, comme un magnétophone, ça peut renverser des situations, ça peut révéler des choses. C'est l'appareil le plus simple possible, mais ça capte les choses.
Ouais, ça capte.
Et donc quand j'ai introduit ma petite machine dans cette clinique sexuelle, ils ne se sont pas rendus compte que c'était le diable qu'ils introduisaient, parce que tout ça était enregistré, tout ça était noir sur blanc, tout ça, ça sera publié en France, aux États-Unis, en Italie, partout, si on peut. Ça devient quelque chose de public. L'espèce de petite boîte noire, ça produit quelque chose d'incroyable, virtuellement.
Est-ce que tu publies tes conversations telles quelles ou tu les retravailles
Ça dépend. La conversation avec un des deux psychiatres d'Artaud, c'est telle quelle.
Ferdia?
Non, la Trémolière. Ah. Ce qui était fou. C'était un homme qui était fou.
Donc il a laissé parler. C'est vrai que tu interviens un peu moins.
Il m'a attaqué. Là, c'était un vrai... Mais il avait le sens du dialogue. Il adorait, c'est évident, il adorait la controverse. Donc, on s'est mis tous les deux dans les positions d'adversaires. On s'est lancé des arguments l'un contre l'autre. Et ça a escalé dehors. C'était tout fait. C'était un vrai dialogue. C'était vraiment une confrontation. C'était une joute oratoire. Mais quand j'ai vu l'autre psychiatre qui, lui, était tout à fait accoutumé à être attaqué, etc., j'ai rien passé. Donc, quand j'ai eu ce matériau brut que j'ai laissé reposer comme ça pendant 25 ans en pensant qu'il n'y avait rien, quand on me l'a traduit, quand on me l'a transcrit, que j'ai regardé, mais je me suis dit, ah, je ne m'étais pas aperçu. C'est vrai que quand 20 ans plus tard, on regarde ça, ce n'est plus le même matériau.
Oui, parce qu'il faut dire que tu as fait ces conversations-là en
84,
et ça a été publié assez récemment.
Oui, j'ai publié récemment en Irlande une interview que j'ai faite en 61 avec Brendan Behan, qui est un héros national irlandais. Ils ont publié ça dans des revues, dans le plus grand... J'ai gardé ça dans une cassette comme ça, ou plutôt sur des grands disques, pendant 40 ans, 42 ans.
Quel était l'intérêt de remettre
C'était toute l'histoire de l'Irlande qui le ressortait. Cette histoire que les Irlandais ont oubliée maintenant, parce qu'ils sont aussi devenus une société de consommation depuis 10 ans. Et soudain, lui, qui était un communiste, le rappelait, qu'est-ce que c'était que l'IRA, tout ça, quel était le passé. C'était, on fait ressortir des spectres, comme ça, vivants, parce qu'avec toute la truculence qu'il avait, c'était un vrai personnage irlandais. Et soudain, dans une société où les gens maintenant sont devenus beaucoup plus calmes et beaucoup plus adaptés à la société de consommation, ils avaient cette voix qui ressortait toute pure. C'est ça la chose incroyable, c'est qu'un document, ça change. Ça change quand on déplace d'un endroit à un autre, ça change quand on passe d'un temps à un autre. C'est ça. Donc, c'est cette forme complètement simple, complètement peu. Même si on fait en vidéo, c'est déjà beaucoup plus territorialisé, la vidéo. Il n'y a rien de plus abstrait qu'une voix. Et pourtant, à travers cette voix, c'est tout un monde. Moi, j'ai enregistré, tu disais que j'étais juif, ça m'a pris 35 ans à trouver la personne dont j'avais le nom, qui ignorait complètement que j'existais, sous son nom à lui. Je m'appelais Serge Bonnat. C'était mon nom de guerre, littéralement. Je sais qu'il existait quelque part, j'avais sa carte d'identité, j'avais ses papiers d'identité, j'ai eu son acte de naissance par la résistance, et donc j'ai eu le nom de quelqu'un qui existait mais qui ne le savait pas. Bon. Quand je l'ai rencontré, j'ai mis mon magnétophone et j'ai enregistré ça. C'était le petit travailleur de chez Renault qui était exploité toute sa vie, qui avait le même accent de Ménilmontant que j'avais à l'époque, que j'ai plus, qui parlait comment, qu'est-ce que c'était le travail à la chaîne, comment il avait perdu ses doigts, personne ne lui avait remboursé ça, etc. Mais il avait une vie comme ça, donc, et ça sortait comme ça du passé, un demi-siècle, 60 ans plus tard peut-être, à la limite. C'est incroyable ce genre de choses.
Absolument.
Alors j'ai fait un interview avec mon sosie, avec mon double.
Ouais, ouais.
Que j'ai toujours pas réécouté. Oh, il y a 7-8 ans, j'aurais pu le retrouver maintenant, il a disparu. Mais un de ces jours, je le retranscrirai. Quelque chose sortira peut-être, je ne sais pas ce que c'est. Ce qui s'est passé entre-temps, c'est que tout ce problème qui était un petit peu sous le manteau pendant longtemps en France, etc. Ouais. Alors pour se redonner une nouvelle légitimité, maintenant, tous les gens qui ont sauvé les Juifs sont devenus ce qu'ils appellent des justes. Des justes. Hein, faut faire ça. Donc, les médias se sont emparés de ça, les justes sont venus avec les gens, etc., devant la télévision, tout le monde pleurait, tout le monde ceci, il y avait l'orchestre, etc. C'est devenu le grand guignol du Holocauste, tu vois ce que je veux dire. Alors, lui, quand je lui ai appelé au téléphone, quand j'ai réussi à le trouver au téléphone, je l'appelle, je dis, c'est Serge Lemay, il dit, c'est moi. Je dis, écoutez, ça va être un peu délicat à vous dire ce qui s'est passé, mais enfin... J'avais votre nom pendant la guerre, etc. Il a compris tout de suite, il regarde la télévision. Il m'a dit, ah, mais venez, on va sabler ça au champagne.
On va se rembrasser.
Et là, à chaque fois, c'est, mais je vous ai sauvé la vie.
son nom.
Oui, mais c'était lui. Oui. Donc, ça, la même histoire racontée 50 ans plus tard, c'était plus la même histoire du tout.
Oui, parce que lui, il la vivait à travers ce que la France vivait.
Oui, ben, il la vivait à travers les médias. C'était plus sa vie, c'était la vie repassée par les médias. Il l'avait déjà mythologisée.
Donc finalement, votre conversation que vous avez, c'était aussi prendre la mesure de ce qui était arrivé en France avec ce.
C'est juste. Tout à fait. C'est ça que j'avais eu. C'est ça que j'ai eu. C'est pas vraiment ce qu'il était lui. C'était que il était lui entrait dans les médias. Grâce à moi, il était devenu injuste. Donc tout ça, c'est un peu une affaire de malentendu. C'est pas vraiment des conversations. C'est que tout ça, c'est un matériau, mais que le matériau lui-même garde sa singularité indépendamment du temps qui passe, des lieux, etc. Et c'est comme une machine, la conversation. On la branche au mur, dans une maison différente, et ça ne va pas donner la même chose. C'est ça. Et ça, les gens, ça ne comprennent pas. La théorie elle-même, la théorie française, lorsqu'on la branche sur l'appareil américain, ce n'est plus la théorie française.
Et quand tu as eu conscience de ce pouvoir, finalement, un peu, de la conversation, de faire surgir, finalement, des choses.
À Montréal.
Et à quel moment, à quelle occasion?
J'ai fait une performance au Foufoune électrique.
Ah oui. Dans un groupe de musique punk?
Non, c'était... Oui, en fait. En fait, c'était quelqu'un qui s'appelle Alan Lord, qui avait organisé tout un grand truc, des artistes américains, etc. Bon. Et moi, je suis arrivé avec deux magnétophones. J'ai fait ma performance où les magnétophones se parlaient entre eux, ils me parlaient à moi, etc. Je poussais l'interview jusqu'au point que ça devenait une performance. Mais tout ça, j'ai compris que le
c'était en quelle année?
Oh, ça devait être en... Pendant 80... Au début des années 80, 83, 84, 85.
Donc, tu avais déjà fait plusieurs conversations.
Bien sûr, oui.
Mais là, à ce moment-là, tu as révélé...
C'est-à-dire que la conversation, ça peut devenir un objet d'art. C'est-à-dire que ça devient une performance. Donc, a priori... On peut faire de l'art avec n'importe quoi, on peut faire de la théorie avec n'importe quoi, c'est cette idée. Bon, c'est à la fois bien et pas bien. C'est que quand la théorie se répand, c'est plus de la théorie. Quand la conversation se répand, c'est plus de la conversation non plus. Alors, on peut en faire des choses, un objet esthétique. J'ai fait ça en Allemagne, je me suis fait projeter des choses sur mon crâne qui était rasé, etc., tout en faisant jouer des magnétophones, etc. On peut pousser n'importe quoi jusqu'au point où ça peut devenir autre chose.
Donc, ce caractère hybride, la conversation, ça pouvait devenir quelque chose de théorique, où on pense, et quelque chose surgit, on pense notre présent, mais ça pouvait devenir également un objet d'art, justement pour la même raison.
C'est la même raison. On produit un matériau. Mais la nature du matériau est différente. Quand je m'adresse à des théoriciens, c'est plus une manière de faire ressortir sous une autre manière leur théorie. Alors parfois c'est lors de la discussion, ça peut être... Mais
et ce déplacement-là peut être bénéfique pour...
Oui, je voulais pas faire du tout quelque chose qui me crédite, mais je voulais simplement faire un livre qui serait adapté à ce que les Américains devraient comprendre de la théorie et pas à ce qu'ils en font. Et ça, c'est cette idée. Eux cherchent des matériaux incompréhensibles parce que plus c'est incompréhensible, plus ça a de la valeur. J'ai pris le sens contraire en disant, moi, je voudrais que ça soit une conversation parce qu'en parlant avec eux, c'est un peu comme si vous leur parliez.
Donc, plutôt de faire un commentaire sur Virilio qui accompagnerait un texte, de préférer converser avec Virilio.
Tout à fait. Puis c'est aussi cette même idée que pas de commentaire. Parce que c'était l'université.
Juste pour ça?
Non, c'est... C'est parce que c'est une activité parasite. Moi, j'aime bien les choses brutes, j'aime bien les choses littérales. La revue, c'était prendre une photographie, parce que c'est ce qui est moins maquillé, avec un texte d'un écrivain, ou le texte le code d'une école, etc. Tout devient matériau. Alors, les matériaux, ça fait penser, parce qu'on est engagé dans une certaine réalité. Mais un objet, un texte, un commentaire, c'est rien. Enfin, ça peut me donner des lumières sur la théorie, mais en soi, c'est rien, c'est l'université. L'université n'est pas un objet qui m'intéresse comme un objet d'investigation. Certains, oui, moi, non.
Et aujourd'hui, est-ce que tu as espoir qu'il peut y avoir quelque chose à l'université c'est noir un peu.
Non, c'est pas noir, c'est un business comme un autre.
Ça reste l'université avec ses
le côté bien qui est que les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent, beaucoup plus libres de penser, de faire un certain travail, d'être des spécialistes brillants, etc. J'ai rien contre ça du tout. C'est l'entourage universitaire qui est, qui est nocif. Parce que c'est un milieu un peu provincial, un peu refermé, etc. C'est un milieu, qui se coupe du monde extérieur, parce que c'est que le monde extérieur, c'est l'argent, c'est le sexe, c'est la réputation, etc. Tout ça se fait d'une manière très provinciale à l'université. Donc, ça ne me gêne pas, parce que plus ils deviennent médiatiques, moins c'est intéressant comme travail. Donc, non, quand j'ai besoin de quelque chose, je prends un livre, je lis, je regarde, je consulte le spécialiste, je vais à ses cours. Non, comme ça, il faut se brancher sur ce qu'il y a bien dans l'université. Mm-hmm. Mais je n'ai pas besoin d'épouser l'université. Je m'en sers comme je m'en sers autre chose, même pour le monde artistique. Mon artistique, il y avait tout de même un certain caractère de créativité, de gens qui prennent des risques. Maintenant, les gens ne prennent plus de risques. Moi, j'aime bien les gens qui prennent des risques. Quand on est à l'université, il faut prendre des risques. Donc, on prend le risque de se faire chasser de l'université, de se faire couper son salaire, de sa promotion. Moi, j'ai attendu ma promotion pendant 18 ans.
Elle est venue ?
Elle est venue 18 ans après, mais c'était partagé. Hein.
Ouais. Peut-être à cause de tes conversations que tu avais mis dans ton CV. Donc, la conversation quand même pourrait avoir sa place à l'université. Non.
Non.
Je veux dire, si tu avais, toi, à reconfigurer l'université, ça pourrait avoir sa place.
Oui,
mais pour l'instant, telle qu'elle est configurée, codée, les théories conversation n'ont pas...
Non, parce que c'est même maintenant comme le monde d'Allard. C'est-à-dire que ça marche au nom. Bon. Un interview, c'est pas le nom de l'intervieweur qui marche, c'est le nom de l'interviewé. Donc quand on produit quelque chose, c'est pas son propre produit, c'est le produit de quelqu'un d'autre. De même dans le monde d'Allard. Tant que les artistes, ils ont parlé pendant 10 ans de la mort de l'auteur, etc. Mais en même temps, tout ce qu'ils voulaient, c'est être connu. Alors qu'ils étaient en train de disserter, de commenter sur, etc., la mort de l'auteur, donnez-leur l'occasion de devenir célèbre, ils ne pensent qu'à ça.
Mais tu n'as jamais eu l'impression de déterritorialiser l'université avec...
Si, mais... Je me suis déterritorialisé.
Tout ça.
Je n'ai pas déterritorialisé. Cela dit, elle a tout de même eu un certain effet, puisque beaucoup de jeunes universitaires nous lisent. Nous ont lu. Il y a des gens qui ont choisi de ne pas devenir universitaire à cause de moi. Je sais, parce que j'ai mes étudiants. L'un a fait une entreprise de vidéo, l'autre est devenu. Est rentré dans l'édition, un troisième est devenu ceci, cela. Moi, j'ai découragé mes étudiants d'entrer à l'université. Sauf ceux à qui ça convenait. Parce que j'ai rien contre l'université. Mais si l'université, elle permet de faire quelque chose.
De faire advenir quelque chose.
Oui, de même pour l'art. Moi, je voulais pas devenir artiste. C'est une tentation, bien sûr. Mais le problème, c'est que si devenir artiste maintenant, c'est de faire du commerce, c'est pas intéressant.
Oui, tu sembles un peu sensé. Ben, tout ce qui produit un objet, et on fétichise ensuite cet objet, et tu sembles être beaucoup plus du côté de la performance, donc quelque chose.
C'est-à-dire qu'un objet, pour moi, était intéressant dans la mesure où il me pose des questions. Il me permet de formuler des questions. Un objet qui circule dans le commerce, il n'y a que des réponses.
Ouais,
et les réponses ne sont pas intéressantes. Mais ça ne devient pas un objet de réflexion. Un objet de réflexion, il faut le constituer. Et ça, un domaine n'est pas fait. Il faut s'engager dedans. C'est ce que je disais au départ. Toi. Si une idée n'est pas engagée dans un domaine, elle n'existe pas. Une idée n'est pas une idée toute seule. Tu n'as pas demandé à un philosophe d'avoir une idée. Personne n'a d'idée. C'est dans la mesure où tu es mis au test d'une situation que les idées viennent. Parce que la situation est toujours multiple et beaucoup plus complexe et riche que l'idée qu'on en a. Donc quand on se retrouve mais dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle, dans ses voyages, on est toujours confronté à des choses qui sont singulières. Mais ça veut dire qu'elles sont riches, difficiles à comprendre. Alors il faut être confronté, expérimenter avec, savoir de quel côté les prendre. À ce moment-là, ça devient un objet théorique.
Et j'aurais une question qui me travaille un peu. C'est depuis à peu près 98, tu donnes plusieurs entrevues et tu reviens beaucoup sur la question de la théorie. Par exemple, dans ce collectif que tu as publié avec Sandy Cohen sur French Theory in America, tu as publié Doing Theory. Donc, ça dit ce que ça veut dire comme titre déjà. Donc, tu expliques comment on fait de la théorie, tout ça. En fait, ta conception de la théorie, dans Pataphysic Review également, et dans d'autres entrevues, ce qui ne semblait pas tout à fait le cas avant, enfin, je n'ai pas en mémoire de texte avant 98, ou enfin autour de ces années-là, tu ne réfléchissais pas vraiment sur ce qu'était la théorie. Pourquoi dans ces dernières années-là? Je me suis posé la question, j'ai dit, bon, dans les années 70, avec Sémiotech, 80, il a publié des textes et il les a lancés sans commentaire.
Oui.
Il les a, est-ce que c'était une note que tu n'as jamais mis à ces textes-là au début?
Oui.
Qu'est-ce qui était la théorie?
C'est parce qu'il n'y a plus d'espoir. C'est à ce moment-là qu'on commence à parler. C'est que ça ne va rien changer, rien. Ouais. Donc, sauf que, la mode de la théorie est passée, mais pour eux, quand la mode est passée, ça n'existe plus. Alors, je voulais tout de même qu'on sache que ça ne m'affecte pas du tout. Enfin, ça m'affecte, oui, ça m'infecte, mais ça ne m'affecte pas du tout. Ce n'est pas parce que Deleuze a été découvert finalement en 92, et puis que ça a duré jusqu'à 2002, et puis que c'est en train de se terminer. Tout ça, c'est prévisible. Oui. Mais ça n'affecte pas le rapport que j'ai... Enfin, j'essaie de faire en sorte que ça n'affecte pas le rapport que j'ai à la théorie. C'est difficile, parce qu'à la fois que quand la théorie devient un objet qui circule de trop, ça devient presque imbuvable. Donc il faut essayer de rester au niveau des idées, pas au niveau de la vogue. C'est pourquoi à ce moment-là, je me dis, tiens, ça serait même intéressant de préciser que ce qui a été consommé et ce qui maintenant est rabattu comme ça, c'est pas vraiment, ça n'a jamais été de la théorie. Alors, j'avais même quelque chose, mais ça n'empêche rien, etc. Mais je voulais même faire ce point-là, dire ça.
Donc c'est pas par dépit ou par dégoût de ce qui s'est passé, c'est
non,
tout simplement
non.
pour mettre les choses au point.
Moi, ce qui s'est passé, il s'est trouvé que j'ai participé à ce lancement de la théorie aux États-Unis. J'en ai profité d'une certaine manière, j'ai continué à faire un travail, hein, mais le travail que j'ai fait, ce n'était pas le même que le leur. Hein, et donc, je voulais même que la chose soit relativement claire, mais les gens lisent et puis ça ne change rien à rien. De même, le travail sur la théorie française, je l'ai fait parce que ce copain, lui, est un universitaire qui a été rejeté de l'université, donc il voulait faire un travail universitaire dessus, mais il faut faire quelque chose pour sauver Deleuze. Il n'y a rien à faire pour sauver Deleuze.
Là, tu parles de Saint-Décone.
Oui, il n'y a rien à faire pour sauver Deleuze. Si on fait un colloque, ça va s'ajouter. C'est vrai, le livre s'est ajouté au reste, ça n'a rien changé. On ne peut pas s'opposer à un processus qui n'a rien à voir avec un processus intellectuel, etc. C'est le système qui fonctionne. Et puis ça récupère, ça enregistre, etc. Et on ne peut pas s'y opposer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, c'est là où on dit Thierry. Si on ne peut pas s'y opposer, si s'y opposer, c'est y contribuer, il faut chercher un autre domaine, une autre zone, une autre manière d'attaquer les choses. C'est ce qu'on a fait avec la revue, c'est ce qu'on a fait avec les livres. On a commencé à publier de la fiction. Parce que la fiction, c'était une manière de penser la fontenelle américaine. Vous savez, la fontenelle.
Oui.
La fontenelle américaine, c'est que la subjectivité n'existe pas. Ils sont toujours en train d'essayer de la faire. Mais ils pensent toujours que c'est eux, cette chose qu'ils sont en train d'essayer de faire. Mais plus ils essaient de le faire, moins ils le sont.
Donc ils essaient de rattraper une espèce de fantôme.
Ben oui, la subjectivité américaine, c'est un manque d'individualité qu'ils mettent comme la preuve de l'individualité. Donc ils sont toujours à la chaise. C'est-à-dire, c'est comme le consumérisme. On cherche à acheter quelque chose qu'on désire, mais on n'est pas ce qu'on désire.
Donc les Américains se voient comme étant des individus individualistes.
C'est ça.
Mais
qui cherchent à s'exprimer, etc. Mais en fait, ils n'expriment rien parce qu'ils sont toujours en formation. C'est ça. C'est une société tellement ouverte et tellement exposée que quand les gens disent « je », ils mentent. Parce qu'ils n'existent pas en tant que « je ». Mais s'ils prennent le « je » comme un objet d'expérimentation sur la subjectivité, à ce moment-là, ça devient intéressant. Donc on a publié c'est ma femme qui a commencé ça, des « native agents ». Quand il y avait des agents d'étrangers, qu'est-ce que c'est que les agents autochtones? Les agents autochtones, ce n'est pas des gens qui parlent de théorie. C'est des gens qui essaient, avec la parole, d'interroger qu'est-ce que c'est qu'être américain. C'est ça. En faisant une fiction qui n'est pas tournée, ce n'est pas un mode confessionnel. Les Américains parlent d'eux très facilement, mais quand ils parlent d'eux, ils parlent de rien du tout.
Ouais, c'est
ils parlent de toute la société américaine.
C'est ce que tu as appelé, ou peut-être ta femme, les Lego Traps.
C'est ça. Oui, on avait fait un numéro qui s'appelait Lego Traps. Donc cette idée que finalement, il faut un jeu qui est expérimental. C'est là où on retrouvait Deleuze. Il faut un jeu qui permet qu'il soit comme un séismographe, qui enregistre un petit peu qu'est-ce que c'est qu'exister dans un monde qui ne permet plus aux gens d'exister. Alors, et ça, une tête chercheuse. À ce moment-là, ça devient une tête théorique. Mais on n'a pas besoin forcément d'un langage théorique pour l'exprimer. Les Américains l'ont trouvé, mais Il parlait de la subjectivité, il reprenait de Lacan, de ceci, cela, mais il ne savait pas de quoi il parlait. Parce que leur objet, ici, peut-être avait une certaine consistance en France, mais leur objet n'existait pas. Ils en parlaient comme s'il fallait déconstruire. Ils ont passé 15 ans à déconstruire la subjectivité qui n'existe pas.
Donc déconstruire un objet qui est un fantôme.
Un fantôme. Mais le fantôme, constamment, il cherche à lui donner la consistance. C'est ça l'intérêt. C'est pourquoi je m'intéressais à l'art américain, c'est que par l'art, il cherchait à exister d'une certaine manière, à se produire. Ça, le produit qu'on leur avait donné, c'était un produit falsifié. La société américaine, c'est pas par hasard que la société américaine demande aux Américains d'être eux-mêmes, d'être des individus. C'est une société fondée sur l'individualisme, sur l'individu. C'est fondé sur une absence d'individualité. Ça m'a demandé du temps à le penser.
Oui, parce qu'ils sont très sensibles à tout ce qui est collectif.
Ils sont très sensibles, mais ils ne le reconnaissent pas.
Ouais,
ah, moi, quand j'ai dit ça...
Tous les théoriciens de la justice, ou enfin de la politique, Rawls, tout ça, on sent une préoccupation
de... On ne peut pas demander à des gens de revenir sur ce qui les fait. Et ça, ce n'est pas un secret, mais c'est comme le ressort intime de la culture américaine, et ça, les Américains ne l'acceptent pas. Quand j'en parle, les gens claquent la porte.
Donc c'est dans vos conversations, j'imagine, que vous avez théorisé cette subjectivité manquante ou absente.
Ou c'est en créant un objet qui pour nous est un objet théorique, c'est-à-dire un jeu qui n'était pas confessionnel, qui n'était pas tourné vers lui-même, pas narcissique, mais un jeu qui s'utilise pour regarder ailleurs, pour regarder le dehors, le monde. C'est ça. Donc ce que les Américains trouvaient de la fiction, pour nous, d'une certaine manière, c'était une certaine manière d'explorer la subjectivité américaine, d'explorer le monde américain, mais sans forcément passer par des concepts. C'est ça, c'est que si la théorie est territorialisée, il faut déterritorialiser la théorie, on peut très bien la retrouver dans la fiction.
Oui, tu dis quelque chose de très intéressant, et j'aimerais peut-être qu'on termine là-dessus. Je vais te citer. « L'avenir de la théorie, c'est la disparition de la théorie dans la production de ses effets. » Ou alors sa réapparition dans des effets qu'elle n'a pas forcément produits, comme ce fut le cas en mai 68. Bon. Et j'ajoute, un petit peu plus loin, ce n'est jamais la vérité qui est en question dans une théorie, mais son usage effectif dans un contexte bien circonscrit. Donc, j'aimerais juste que tu développes là-dessus sur cette idée que la théorie disparaît dans la production de ses effets.
Oui, oui. Ben, la théorie française a disparu dans la production de ses effets de mode.
Mais elle reste pour toi quand même, Deleuze est très présent.
Oui, non, mais attends, mais c'est pas la même théorie qu'on parle. Une théorie qui est utilisée comme décoration, comme plus-value, c'est pas la théorie dont je parle. C'est que les gens cherchent à se donner un ego, ils cherchent à se donner une individualité qui a plus, ils cherchent à se donner de la valeur, ils cherchent à se faire mousser par la théorie. Donc, c'est bien les mêmes mots. Mais ce n'est pas la même théorie, on ne lit pas le même texte. Oui. Au contraire, moi j'ai toujours pensé que la théorie, c'est quand ça se connecte à autre chose. Alors ça s'est connecté au ego, et bon, bah, ça a été manufacturé. Donc la théorie elle-même, bon, ce n'est pas tous les gens qui ont fait ça. Il y a des gens intelligents qui ont utilisé la théorie pour explorer le problème des sexes, etc. etc. Non, un travail a été fait aux États-Unis ici et là, ce n'est pas le problème. Mais dans sa masse, ça a été gâché. Toute une théorie qui a été gâchée. Les universitaires l'ont récupéré en l'assimilant à l'école de Francfort. L'idée du pouvoir, c'est devenu une idée du contrôle, etc. Ils ont ramené l'inconnu au connu. Et de même pour les gens. Les gens, ils ont utilisé la théorie en ramenant ça à ce qui est connu, c'est-à-dire, ah, moi j'ai fait l'effort, etc., j'appartiens au club. C'est une question de club. Quand on va dans un club downtown, oui, il y a des bouncers, comme ça, c'est les gens. Pour les gens qui sont portiers. À la porte, les portiers. Bon, tout le monde sait très bien que l'important, ce n'est pas ce qui se passe dans le club, c'est de sans qu'on laisse rentrer certaines personnes et qu'on en rejette d'autres. Ceux qui sont rejetés se sentent mal, et ceux qui sont acceptés, ils sentent qu'ils appartiennent, etc. Mais le lieu lui-même ou la musique même, ça n'a aucune importance. Elle peut être bien aussi, mais ce n'est pas l'important. L'important, c'est d'être choisi. Et c'est la fonction de la théorie. C'était pas une fonction intéressante.
Mais elle réapparaît ailleurs. Et
oui, c'est ça.
Tu lui as donné une nouvelle forme à ta façon.
J'ai pris une tangente. Ouais. Et on a pris une tangente. Et bon, maintenant, on réapparaît, on marche avec une maison d'édition très honorable, la MIT Press, etc. On fonctionne toujours sans argent, toujours sans staff, vraiment, mais on utilise un petit peu, on s'est remis un petit peu à la mode, on a agrandi les petits livres parce que ça nous coûtait trop cher de publier des petits livres.
Ah ouais ?
Les grands livres, ça coûte moins cher.
Et pourquoi ?
Parce qu'on peut les vendre plus cher.
Ah, aussi simple, hein, c'est question de marché.
Oui, mais il faut bien tenir compte du marché.
Mais la question là, que la disparition de la théorie dans la production de ces effets, c'est vraiment très bien expliqué. C'est aussi lié finalement à ton expérience de New York, c'est-à-dire que tu bouges constamment dans New York en fonction de finalement de cette réappropriation très commerciale, cette gentrification de New York, te déplace dans New York au point même où tu vas quitter bientôt.
Oui, bien sûr, parce que New York n'est plus New York. New York, c'est le Midwest. New York, c'est l'Amérique.
New York a disparu dans
moi,
la production.
Moi, je voulais pas vivre en Amérique. Je voulais vivre à New York. Et ça, New York, tant que New York n'était pas l'Amérique, New York m'intéressait. L'Amérique, c'est Bush, c'est tout ça, ça m'intéresse absolument pas. Alors, bien sûr, les milieux, ou alors, je préfère être dans le désert. Tout seul dans le désert, j'aime bien. Parce qu'il y a des grands déserts, comme bien montré Baudrillard, entre autres. Donc, être tout seul aux États-Unis, j'aime bien. Être tout seul dans une foule, j'aime bien. Mais être parmi les bus, etc., des gens qui déboulent, les touristes, non, ça ne m'intéresse pas. Autant retourner en France, et pourtant.
Je te remercie, Sylvain. Ça a été très sympathique. Et tu as éclairé plusieurs points, je crois, sur la question de la théorie. Okay. Et,
une certaine théorie.
Une certaine théorie, la tienne. Merci beaucoup.